Voilà, bonjour. C'est moi qui ai demandé le changement de salle. C'est moins sympa au point de vue écriture, mais il y a une acoustique quand même qui vaut la peine parce que j'ai des CD de haut de gamme. C'est pas la peine d'écouter ça sur des mauvaises chaînes. Donc, dans la deuxième partie, on fera un petit peu d'audition. On va revenir au psaume 8 avant d'attaquer le psaume 23. Donc pour le psaume 8, j'avais terminé sur une question. Au fond, le but de toutes les opérations que nous faisons, c'est à travers cette lecture gustative, à travers la lecture et la relecture du texte, de finalement se faire une intuition de ce que veut dire le texte. Bon. Ensuite, moi, l'outillage que je vous donne, en particulier ce que je vous ai donné la dernière fois en matière de structure, hein, les répétitions. Deuxième élément très important et presque toujours dans les psaumes, l'élément d'inclusion, le début et la fin. Il faut toujours regarder dans un psaume, quelle que soit sa longueur, entre le début et la fin, puis après vous essayez de dessiner, je dirais, la configuration de structure, soit elle est concentrique, soit elle est alternée. Ce sont des outils, hein, pour vous permettre de structurer le psaume. Mais, et puis là, tout à l'heure, dans la deuxième partie, on fera toute une affaire autour de la sémantique, c'est-à-dire comment justement l'auteur, non seulement avec des structures formelles, toute poésie obéit à des structures formelles, va jouer justement sur les mots, hein, ou le sens des mots, l'enchaînement de ce qu'on appelle habituellement soit les champs sémantiques, soit en français les isotopies, hein, c'est-à-dire que un mot va se retrouver dans le même casier, etc. Donc une fois que vous avez fait un petit peu ce travail préliminaire, vous verrez qu'à la fin, c'est un peu comme si quand vous jouez d'un instrument de musique. Au début, il faut faire des gammes, il faut être assez rigoureux dans ce qu'on apprend. Bon, et après, on se laisse aller. Hein, et je dirais, le psaume, progressivement, va devenir quelque chose que vous habitez en fonction d'une intuition que va vérifier votre analyse. Mais l'intuition, vous l'avez déjà au départ, ou vous la confirmez, ou vous l'infirmez. Mais ce n'est pas du tout, je veux dire, le travail un petit peu de structuration, de décodage sémantique, ne sert justement qu'à renforcer l'intuition de départ que vous aviez. Faire du découpage, enfin tout ce que j'ai expliqué la dernière fois, sans qu'il y ait cette intuition, c'est se risquer simplement à découper des choses, mais à ne rien trouver. Hein. Faut un peu d'intuition quand même. Alors, on va reprendre un petit peu quelques éléments du texte qu'on a vu la dernière fois, afin justement de vérifier cette intuition. Je vous ai donné pas mal de clés dans la préparation, hein, mais là, je vais encore en donner quelques-unes. J'en donnerai de moins en moins, c'est vous qui allez m'en donner au bout d'un certain temps, hein, parce que vous allez devenir savant, hein. Au fond, dans les premières séances, vous me regardez faire, et dans les séances suivantes, c'est vous qui me montrez si vous savez faire ou pas, et vous trouverez des choses, peut-être à votre insu, sans vous en rendre compte, mais vous êtes plus doué que vous ne croyez. Alors, si je prends le psaume, donc, à travers les structures que nous avons élaborée la dernière fois, très bien construite, hein, une belle structure concentrique, fondée sur le vocabulaire, avec une périphérie où il est question de la gloire de Dieu et un centre où il est question, je dirais pas de la gloire de l'homme forcément, mais quelle est la place de Dieu? C'est une interrogation, c'est pas une exclamation, hein, c'est pas En hébreu, je sais bien, on ne marque pas l'interrogation ou l'exclamation, mais c'est le même pronom, ma. Qu'est-ce que l'homme? Mais ça ne peut pas ici être une exclamation, les exclamations sont à la périphérie du texte. Donc, devant la gloire de Dieu, qu'est-ce que l'homme? Alors, vous avez vu la traduction que je vous ai donnée, tu l'as fait ayant besoin de Dieu un peu, et cet homme, finalement, par une face de lui-même, et c'est là que la sémantique est très précieuse, il est couronné de gloire et d'honneur, c'est-à-dire par un aspect de lui-même, non pas à cause de ce qu'il y a dans le cerveau, je vous l'ai bien dit la dernière fois, mais la tête représente le haut de l'homme, parce qu'ils sont bien conscients que l'homme est le seul animal à se tenir sur des pieds. Toute l'anthropologie physique a démontré ça. Nous avons passé notre temps à vouloir marcher sur des pieds, et pour libérer les mains en particulier. Et les mains deviennent, pensons, on a perdu deux pattes, deux mains. Les singes ont deux mains, quelquefois c'est plus commode. Pour grimper aux arbres, mais nous, on a moins besoin de grimper aux arbres que les singes. Alors du coup, les mains sont libérées et ça va entraîner également, au point de vue anthropologique, un développement du cerveau et du cerveau antérieur, c'est-à-dire celui qui est le moins animal, c'est-à-dire que ça va atténuer un petit peu ce que les animaux ont beaucoup plus que nous, qui est le sentir. Vous savez que le flair d'un animal est extraordinaire. Un chien normal, il a 40 fois plus de flair que vous. Et le labrador, vous voyez ce que c'est, le chien labrador, lui, il a 70 fois le flair que vous avez. C'est pour ça que c'est un excellent chien d'aveugle. Et en plus de ça, il est calme. Mais il n'est pas bon pour la drogue, parce que dans les cas de drogue, il y a de la violence, ça tire un peu. Il vaut mieux des bergers allemands qui ont moins de flair, mais qui, eux, ne bougent pas si ça tire en l'air ou à côté d'eux. Ils font ce qu'on leur dit. Voilà pour le problème. Alors, nous, on a moins de flair. Évidemment, on a perdu un peu dans le paléo-encéphale, mais on a gagné dans le néo-encéphale. C'est là que sont tous les neurones. Donc, par la partie supérieure, on est apparenté, on est du côté de Dieu. Et vous avez vu ce psaume magnifique. Il commence par « situer Dieu sur toute la terre ».« Ta majesté qui est au-dessus des cieux », majesté ou gloire sont très synonymes, « au-dessus des cieux ». Et puis, il y a « en dessous des cieux », ici, on ne donne pas grand-chose sur ce qui est juste en dessous des cieux, il y aura d'autres psaumes qui vont le donner. Et puis, il y a tout ce verset 3, là, par la bouche des enfants-sons, tu opposes ton lieu fort à l'adversaire ou à l'ennemi pour supprimer l'ennemi. Alors, on revient ensuite au-dessous des cieux. Quand je vois tes cieux, le ciel des astres, et les étoiles que tu fixas, et puis on arrive à l'homme, et l'homme, par la partie supérieure de lui-même, est apparenté à ce haut. Et par les pieds, tu as tout mis sous ses pieds. Il ne s'agit pas ici de mettre sous les pieds pour l'écraser, le dominer. C'est pas du tout. Tu l'as fait dominer sur l'œuvre de tes mains, mais la traduction n'est pas très bonne. Tu l'as fait gérer l'œuvre de tes mains. L'homme est plutôt intendant de la nature que dominateur de la nature. Mais très souvent, on a interprété ce verbe en termes de domination et d'écrasement, c'est-à-dire que l'homme pouvait faire n'importe quoi de la nature. Donc, l'homme est une espèce d'hybride qui tient la place centrale dans le psaume, qui par un côté de lui-même est apparenté donc à Dieu, avec deux qualifications qu'en général, ils appartiennent à l'homme, enfin, c'est plutôt des qualificatifs qu'on attribue à Dieu, la gloire et la splendeur, la gloire et l'honneur. Ça, c'est des mots qui sont plutôt réservés à Dieu, et dans le psaume, ils sont attribués à l'homme. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur, ce qui confirme sémantiquement la parenté, si vous voulez, de l'homme avec ce qui est au-dessus de lui, c'est-à-dire avec Dieu. Il y a une sorte de parenté de l'homme avec Dieu. Et la parenté avec les animaux va apparaître par le fait que, alors, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Donc ici, c'est un, globalement, l'homme a reçu l'intendance du monde. Et puis ensuite, alors, le verset 7b à 9 vont être tout l'univers. D'abord, les animaux terrestres. Et même les bêtes sauvages, ils ne sont pas là pour rien, les bêtes sauvages, c'est-à-dire même ce qui échappe à la domination de l'homme par certains côtés. Hein, l'homme n'a pas la maîtrise du lion facilement, ou des serpents. Hein. Bon, les bêtes sauvages, bon, l'homme en a reçu aussi le dominion. Et puis ensuite, eh bien, on va monter au ciel, mais non plus au ciel des astres, mais au ciel des oiseaux. Puis on va redescendre dans les poissons, dans la mer, qui sont les poissons de la mer, et tout ce qui va son chemin dans la mer, c'est-à-dire tous les monstres, tous les gens qui n'ont pas droit au nom de poisson. Parce qu'un poisson, c'est comme un oiseau. L'oiseau doit voler dans les cieux, et le poisson doit nager dans la mer. Tout ce qui nage pas dans la mer... n'est pas considéré comme poisson. Par exemple, les crustacés, les baleines également, parce qu'elles n'ont pas la reproduction des poissons, c'est mammifères. Donc, ils sont interdits de consommation. Si un jour, vous invitez un juif à votre table, il ne faut pas lui donner des crustacés. Hein. C'est pas cachère. Pourquoi ? Parce que s'il est dans l'eau, il doit nager. Or, le crustacé ne nage pas. Il est sédentaire. Il est appuyé sur des... Il marche, hein, le crabe, etc. Alors, ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vient faire le verset 3 ? Est-ce que vous avez réfléchi depuis la dernière fois ? Et est-ce que l'Esprit-Saint vous aurait inspiré ? Ou vos simples lumières ? La bouche des enfants sont, la bouche des nourrissons. Alors, je vous ai dit, pour l'adversaire, hein, qu'il fallait penser aux trois modes de création. Celui qui vous est bien connu, donc, qui est la création de Dieu par la fabrication, comme un potier façonne l'argile. Eh bien, Dieu façonne le monde et l'homme, éventuellement. Deuxième façon de créer, Dieu dit... Et cela est, hein, dixit et facta sunt, hein, Dieu dit et cela est. Nous, ce n'est pas notre cas, on a beau dire, ça ne se fait pas forcément, faut y aller. Et puis enfin, le troisième mode de création qui vous est beaucoup moins familier, parce qu'il est moins représenté dans la Bible, mais très présent dans les mythes du Proche-Orient, l'idée que au commencement est un chaos primitif, dominé par des monstres que Dieu a vaincu dans un combat, mais qu'il n'a fait que stabiliser, c'est-à-dire que le bateau est arrimé sur l'eau, mais si l'homme se conduit mal, ou si on s'occupe mal de la création, ces monstres vont refluer, comme ils étaient puissants au commencement, vont redevenir puissants et foutre en l'air l'ordre que Dieu a mis. Donc il y a l'idée de ce combat qui est gagné, mais enfin qui est tout à fait instable. Alors ici, à mon avis, on a certainement une idée de création d'ordre combat et auquel Dieu oppose les enfants et les nourrissons. Cherchez un petit peu. D'un certain temps, il faut avoir une petite idée de ce qu'on raconte. Celui qui a trouvé, c'est un exégète allemand, pasteur qui était marié, donc c'était peut-être plus facile pour lui de trouver que pour un célibataire comme moi, je vous ai dit, il y a un indice qui est qu'il n'y a pas de soleil dans le psaume. Il n'y a pas de soleil. Il y a la lune et les étoiles. Donc, la scène se passe de nuit. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait la nuit au Proche-Orient le soir? Ceux qui sont allés savent à peu près ce qu'on peut faire au Proche-Orient le soir, à la nuit tombée. On vit beaucoup dehors, hein, on n'est pas à l'intérieur. Ben, on va prendre le repas, on va prendre l'apéro éventuellement, hein, si on est un peu en tourisme. On va faire ça à la tombée de la nuit. Et dans une famille, on va être dehors, on ne va pas être dedans. S'il fait beau, il fait beau les trois quarts de l'année pratiquement. Pas forcément à Jérusalem, hein, il fait un froid de canard à partir du mois de novembre. Hein. J'ai vécu deux ans là-bas, il y a de la neige. Hein. Il y a de la neige au mois de janvier, bon, il fait froid. C'est pas chauffé en plus. Bon, donc, mais enfin, le reste de l'année, à partir du mois de mai, on peut être dehors jusqu'au mois d'octobre, quoi, dans la soirée. Alors ici, soir, alors évidemment là-bas, et sans doute à l'époque encore plus que maintenant, un ciel complètement étoilé. Actuellement, les ciels étoilés, avec la lune comme un croissant d'or, faut quand même aller dans le Sinaï, par exemple. Vous avez ça, c'est superbe, une espèce de nuit sans nuages. On voit presque la Voie lactée comme une neige là, qui se promène. Bon. Mais en gros, lui, voilà, il regarde la nuit. Ouais. Ouais. Ah, vous êtes pas loin, oui. Alors effectivement, faut imaginer la scène, donc un couple qui est dehors en train de manger tranquillement et d'admirer l'univers. Et puis dans le couffin, il y a un bébé qui se met à piailler, etc. Bon. Et celui qui a écrit le psaume, qui a fait cette expérience-là, il dit, mais enfin, la grandeur de Dieu, la grandeur de l'univers, et ce petit gamin-là, qui est dans le berceau, eh bien, c'est un homme, ou un fils d'homme, enfin, il deviendra ce qui est au centre du psaume. C'est ça que Dieu a choisi, en quelque sorte, pour affronter la puissance, voire la puissance maléfique du cosmos, c'est-à-dire que c'est plus grand. C'est plus grand, bien que ce soit tout petit et piaillant et ayant besoin de nourriture. Donc c'est une scène, ce qui est intéressant dans ce psaume-là, vous retrouverez ça dans d'autres, hein, c'est qu'il y a probablement une expérience derrière, une situation qui a été vécue par quelqu'un qui découvre au fond la grandeur des cieux, et à travers la grandeur des cieux, la grandeur de Dieu. Et derrière la grandeur de Dieu, eh bien, dans le sillage, en quelque sorte, l'homme, qui lui a une place centrale, puisqu'il est à cheval sur le monde créé, hein, sur la création, et en même temps, il a quelque chose à voir avec Dieu. Et s'il a quelque chose avec Dieu, lui, il a en quelque sorte vaincu la puissance du chaos avec Dieu. C'est-à-dire que il est dans la création celui qui est capable d'éviter le chaos primitif, hein, ou le retour au chaos primitif. Alors, ce n'est pas l'homme adulte qui est visé ici. Dans son expérience, il découvre que ce petit bébé qui piaille dans le couffin, eh bien, il est promis à cela, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est surpris de voir les nourrissons et les enfançons piailler, là. Au début du psaume, face aux adversaires, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Alors, on a corrigé à tour de bras le verset, mais simplement, le poète fait l'expérience que sa contemplation de l'univers est accompagnée de. Oui, c'est pas assez fort. Alors, ça vient pas de moi, mais. Et là, c'est mieux. Attends, je vais essayer d'augmenter. passer les interdits. Voilà, mais seulement c'est très gênant de parler devant un, à moins qu'il soit des os. Non, tout simplement, il tient comme ça. Voilà, là, ça devrait aller, si je le tiens comme ça. Là, ça va? Alors, donc, ce psaume à la grandeur de Dieu ou à la gloire de Dieu est montré comme, non pas forcément à la gloire de l'homme, mais pose une question sur la place de l'homme, et la pose d'autant plus radicalement que l'homme est vu ici dans sa faiblesse, hein, et dans sa faiblesse la plus grande, puisqu'il s'agit des enfants-sons et des nourrissons. Or, c'est à cet homme-là que Dieu a remis la gestion de l'univers, hein, puisque tu l'as fait dominer sur l'œuvre de ses mains, etc. Voyez un petit peu l'importance de ce psaume. Hein. Ouais. Oui, mais alors, d'accord, oui, on pourrait éventuellement faire ça, mais pourquoi on ne peut pas le faire directement? Tout simplement parce que le psaume ne dit pas adéquatement, si vous voulez, y a des psaumes qui vont le dire, eux, carrément, que s'il se passe quelque chose au niveau de l'homme, il se passe quelque chose au niveau du cosmos. Ça, on aura des textes qui vont dire ça. Hein. C'est-à-dire qu'entre l'étoile des mages et la venue en notre humanité de Dieu, bon, ben, ça chamboule le cosmos ou ça a un impact sur le cosmos. Là, ici, simplement, on montre les choses, vous voyez. On ne montre pas d'effet. Par exemple, le psaume 114, lui, montre nettement un effet dans l'histoire des hommes qui a un impact cosmique. Ça, c'était le psaume 114, est tout à fait net à cet endroit-là. Ici, la chose est moins nette, il ne s'agit pas d'une interaction entre l'homme et le cosmos, ou l'histoire humaine et la création, mais simplement de montrer que l'homme domine sur la création parce que justement il est en lien avec Dieu et avec le reste du cosmos. Oui. Oui. Alors c'est important ce que vous dites parce que effectivement ça indique un des éléments fondamentaux du psaume, à savoir que c'est dans par la bouche bien sûr et le lieu de l'absorption hein, des aliments, mais en ce sens-là ils sont des nourrissons et des enfants sont bon, donc on assiste sur la bouche, l'enfant il porte tout à sa bouche, hein. Mais la bouche comme lieu de la parole, c'est-à-dire que ce cri complètement inarticulé que prononce un enfant, ça piaille, ça crie, enfin, c'est pas du langage articulé, eh bien ça, c'est justement ce genre de parole est plus puissante en quelque sorte que la puissance même du cosmos ou du chaos. Donc c'est important effectivement que la parole soit signifiée ici, et dans ce cas-là de moins formalisé, puisque c'est une parole de... non articulé, la parole de l'enfant n'est pas articulée, c'est une parole, une suite de cris, une suite de mots. Hein. Donc c'est de la louange, mais de la louange non, montée comme le sont les louanges habituelles. Donc c'est vrai que la bouche ici est importante. Parce que n'oubliez pas qu'il y a les mains, il y a le toucher, il y a la parole, il y a le voir, le goût par certains côtés. Donc, il y a un peu la présence des cinq sens, l'audition, etc. On entend des choses, on goûte avec la bouche. Donc, les cinq sens sont bien représentés là-dedans. Et le voir est très présent, et le toucher aussi. Avant de passer peut-être à d'autres questions, donc le corps est très central. La zoologie, vous avez vu, elle est divisée en trois catégories, bon, classiques. Les animaux terrestres. Alors, les animaux sauvages sont justement ceux qui ne sont pas maîtrisés par l'homme. Puis ensuite, les oiseaux. Et puis enfin, les poissons et les monstres de la mer. Un petit mot sur une comparaison entre ce texte-là et le texte de Genèse 1, le premier chapitre de la Genèse. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier chapitre que nous lisons toutes les nuits pascales, où effectivement Dieu commence par créer ou délimiter trois grands espaces, D'abord, c'est la nuit partout, il y a des ténèbres partout et Dieu sépare les ténèbres de la lumière, premier jour. Deuxième jour, il y a de l'eau partout, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc il y a de l'eau au-dessus, puis il y a des eaux en bas. Alors il y a une plaque, le firmament, qui en quelque sorte va permettre l'étanchéité des deux types d'aquatique. Bon. Et puis enfin, troisième élément, à partir des eaux d'en bas, il va faire émerger la sèche et le prototype, si vous voulez, de la naissance de la terre, c'est l'île qui émerge de l'eau. Et le dernier jour, il fait émerger la terre avec de l'herbe, etc. Et des arbres. Bon, voilà, ça c'est les trois premiers jours. Le quatrième jour, il va meubler le premier jour. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la lumière et des ténèbres, il faut qu'il y ait un astre pour la nuit, un astre pour le jour, plus les étoiles. Le cinquième jour, il va créer les oiseaux du ciel pour les eaux d'en haut et pour les eaux d'en bas, les poissons de la mer. Parce que pour eux, si vous voulez, la représentation qu'ils ont du cosmos, c'est que c'est comme si nous étions dans une sphère et entourés d'eau. Il y a de l'eau en dessus, il y a de l'eau en dessous, et nous sommes protégés des eaux en dessus par des écluses, un système de fermeture et d'ouverture. De temps en temps, il faut laisser passer de l'eau, ça donne de la pluie, mais quelquefois on ouvre les écluses du ciel et ça peut entraîner le déluge. Nous sommes pris par les eaux d'en haut. Quant aux eaux d'en bas, eh bien, elles peuvent monter également et ça peut provoquer aussi une inondation, un déluge d'en bas. Et puis la terre, donc il y a les oiseaux, eux appartiennent à la sphère céleste, juste en dessous des eaux d'en haut. Et les poissons sont dans la mer. Et le quatrième jour, il va créer les animaux terrestres sur la sèche. Et moi, j'ai toujours été déçu qu'on ne nous ait pas gardé un jour à nous pour l'homme. On méritait quand même bien ça. On est tellement intelligent et supérieur aux animaux. Ben non, manque de peau. Genèse 1, nous sommes créés le même jour, c'est-à-dire le sixième, en même temps que les animaux terrestres. Voilà notre supériorité. Donc Genèse 1 insiste bien pour montrer à la fois notre parenté avec les animaux terrestres. Nous sommes de la même, nous avons été créés le même jour et nous sommes faits de la même matière. En revanche, il y a quelque chose qui est spécial dans la création du couple, de l'homme et de la femme, à partir du chapitre 1er, verset 24, à savoir que nous ne sommes pas créés ou nous ne reproduisons pas selon notre espèce, mais nous sommes créés à l'image ou dans l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Bon, en hébreu, c'est un petit peu compliqué. En français, on traduit à l'image et à la ressemblance, mais c'est une facilité. Ça veut simplement dire que l'image en hébreu, c'est une ombre. Par exemple, quand vous avez le soleil qui donne sur un arbre, l'arbre se projette sur la terre. Eh bien, l'idée ici, c'est que cette ombre, qui est l'image de l'arbre, et quand le soleil est bien rasant, vous avez une très belle image de l'arbre, elle est nette, et on ajoute simplement que cette image ressemble à son modèle. Donc, quand on dit que l'homme est créé selon une image ressemblante à Dieu, ça veut dire qu'il ressemble un petit peu à Dieu par quelque chose. Donc, il est créé comme ça. Mais il a une parenté avec la nature, il n'est pas au centre de la nature, il arrive le sixième jour et le septième, vous avez le Shabbat, le repos de Dieu. Eh bien, la théologie est assez différente dans le psaume 8, puisque dans le psaume 8, là, l'homme est au centre, c'est-à-dire qu'il y a toute la création qui se divise en deux espaces, le haut et le bas, et au centre se trouve l'homme. Très différent donc de Genèse 1, où l'homme est simplement relégué au même rang que les animaux, créés le même jour, mais d'une autre façon, puisque on indique une parenté avec Dieu. Deux théologies différentes. Je ne sais pas lequel est le plus ancien ou le plus récent, hein, si c'est le psaume 8 ou Genèse 1, ça n'a pas une très très grande importance pour nous. Mais il ne faudrait pas trop vite dire qu'il s'agit de la même théologie. Il y a deux théologies différentes. Ici, on est davantage dans un rapport de l'homme au centre de la création, alors que dans Genèse 1, l'homme est l'achèvement de la création. Il y a quelque chose de temporel, si vous voulez. Ici, au contraire, c'est plutôt spatial. Alors, si c'est clair pour vous, je vous avais donné quelques petits textes non bibliques à lire, qui c'est un thème assez classique de montrer la puissance de l'homme. Pour moi, peut-être le texte le plus vigoureux, c'est le texte d'Antigone. Le texte d'Antigone, extraordinaire, dans le cœur d'Antigone. Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas une plus grande que l'homme. Il est l'être qui sait traverser la mer grise à l'heure où souffle le vent du sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui offrent les flots soulevés. Il est l'être qui tourmente la déesse auguste entre toute la terre. La terre éternelle est infatigable avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnant sans répit. Celui qui l'a fait labourer par les produits de ses cavales, les oiseaux étourdis, il les enserre, il les prend, tout comme le gibier des champs et les poissons peuplant la mer, dans les mailles de ses filets. L'homme a l'esprit ingénieux, et par ses engins il se rend maître de l'animal sauvage qui va courant les monts, et le moment venu, il mettra sous le joug et le cheval à l'épaisse crinière et l'infatigable taureau des montagnes. C'est un texte très proche du psaume 8, l'homme capable de dominer tout le règne, tout ce qui règne sur la terre. Il a reçu cela. Autre texte peut-être que je ne vous avais pas donné et qui est tout à fait dans la même ligne, qui est le texte de Pascal, que vous connaissez par cœur, j'espère, et qui au point de vue de la prose de Pascal est une merveille dans les pensées. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'acharne pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée, c'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée que nous saurions remplir. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Bon, ici, Pascal prend évidemment une tournure qui n'est pas dans le psaume, qui est de montrer que ce qui fait la, comment dire, la grandeur de l'homme, c'est pas qu'il soit tourné vers Dieu comme dans le psaume, c'est qu'il est intelligent. Notre intelligence, avec cette disproportion, si vous voulez, de l'homme sur l'animal, etc. Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai pas davantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Bon, c'est superbe, ça. Mais ici, on est dans une autre topique que celle du psaume. Vous savez que ce psaume-là a été repris dans le Nouveau Testament, et en particulier dans l'Épître aux Hébreux, et d'une manière tout à fait intéressante, puisque dans l'Épître aux Hébreux, il va donc le citer très très longuement et va l'appliquer au Christ. C'est-à-dire que le Christ est justement cet homme dont il est question. Le Christ est fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est fils d'Adam, hein, en hébreu. Si je traduis fils de l'homme en hébreu, ça va me donner Ben Adam. Bon, c'est un autre problème en araméen, puisque c'est probablement une confusion de l'araméen qui a donné fils de l'homme, mais ça ne veut pas dire fils de l'homme. Mais en hébreu, on connaît fils d'Adam, hein, puisque là... Alors, fils d'Adam, qui signifie fils de la terre, hein, d'abord, puis ensuite fils d'Adam au sens descendant d'Adam. Et si vous appliquez ça au Christ, il est un peu coincé, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce qu'il est obligé de dire « tu l'as abaissé », puisque c'est ce qu'il y a en grec, et lui, il travaille sur la Bible grecque, « tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges hein, », tu l'as un peu abaissé au-dessous des Elohim. Il traduit ici, non pas « tu l'as fait ayant besoin de Dieu un peu », mais « tu l'as abaissé au-dessous des anges », traduisant le mot « Elohim », qui signifie « Dieu », par « ange ». Mais ce qu'on a le droit de faire en hébreu, le mot « Elohim », les Elohim, c'est un pluriel qui peut désigner Dieu au singulier ou qui peut désigner les anges au pluriel. Donc lui, ici, il va dire du Christ qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Alors, au lieu de dire qu'il a été abaissé un peu au-dessous des anges, ce qu'il ne peut pas dire puisqu'il s'agit du Christ, il va s'en tirer en disant « pour un moment, tu l'as abaissé au-dessous des anges ». Le moment où il a été abaissé, c'est bien entendu le moment de l'incarnation, et en particulier le moment de la croix et de la mort. Donc pour l'Épître aux Hébreux, il va transformer l'abaissement de l'homme par rapport à Dieu, non pas comme un statut, mais s'il l'applique au Christ, il va montrer que cet abaissement n'est pas par rapport à Dieu, mais par rapport aux anges, et que ça n'a duré qu'un moment, c'est-à-dire le moment de l'incarnation, le moment de la croix. Voyez un peu comment il a bricolé la citation pour qu'elle soit applicable au Christ, et donc il s'en sert comme un argument pour montrer la place centrale du Christ en disant à qui Dieu a pu-t-il dire cela, etc. Voilà, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'aurait pas dites sur ce... Oui. Alors, effectivement, dans ce psaume-là, pas de végétation. Hein? Alors, là aussi, votre remarque est intéressante. Quand on fait une lecture de psaume, il faut toujours se demander ce qui n'y est pas. Alors, moi, j'ai insisté pour vous dire, il n'y a pas de soleil. On est bien d'accord? Donc, s'il n'y a pas de soleil, c'est qu'on n'est pas pendant le jour. Ça ne peut être qu'une scène de nuit. Alors, il faut essayer de chercher une scène de nuit qui va s'accommoder. Pourquoi il n'y a pas de végétation, à votre avis?
Vous avez la réponse. Comment ? Non, c'est que la... Vous savez que la végétation est quelque chose que Dieu n'a pas créé. Vous savez que dans la conception de la création de Genèse 1, par exemple, on vous dit simplement que par un acte de Dieu, la terre va émerger, et avec elle, donc au troisième jour, la terre va émerger, mais d'une certaine façon, c'est connaturel à la terre qu'elle porte des fruits et des arbres. Hein, c'est quelque chose qui... la terre, c'est ce qui porte des fruits et des arbres. Et du coup, il n'y a pas besoin d'un acte créateur. L'acte créateur intervient surtout dans les actes de séparation. Bon, séparer les ténèbres et la lumière, séparer les eaux d'en haut ou les eaux d'en bas, faire émerger la sèche, mais la sèche d'elle-même, elle porte du fruit, bon, etc. Et puis, acte créateur également, quatrième jour, lune, étoile, etc. Et soleil. Cinquième jour, les oiseaux et les poissons. Et sixième jour, les bestiaux et l'homme. Donc Dieu a créé tout ça. Mais la végétation, par certains côtés, elle appartient à la terre. C'est-à-dire là où il y a de la terre, il y a de la végétation. Oui ? Non. Ça, ce serait projeté sur le texte. Oui, mais oui, on pourrait le penser, hein, qu'en fait il n'y a pas de soleil, c'est l'homme qui l'est. Mais ici, on a une scène nocturne manifestement. Hein. Et s'il avait voulu nommer le soleil, il l'aurait nommé. Je vous donnerai un autre psaume où il y a le soleil. Et a priori, on peut être étonné qu'il y ait, je veux dire, c'est que le soleil ne soit pas nommé est quand même est gros. C'est une grosse ficelle, parce que c'est la première chose qu'on voit quand même quand on va au Proche-Orient. Je ne sais pas si vous êtes allé au Proche-Orient ou en Égypte.
Enfin, les nuits peuvent être magnifiques aussi.
Oui, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça qu'ici, on est plutôt dans une scène de nuit. Mais le soleil, si vraiment ça avait été une scène de jour, ça ne pouvait pas lui échapper de le mentionner, quoi. Mais là, ce n'est pas mentionné. Et l'homme ne tient pas là. Alors, à un moment donné... Dans le psaume 19, vous verrez, il y a une comparaison entre l'homme et le soleil. Et il y a des comparaisons dans un certain nombre de poèmes, bon, où le Christ est comparé au soleil, hein, le soleil de justice, etc. Mais ici, je crois que l'homme ne tient pas la place du soleil. De toute façon, l'homme ne serait pas au centre, le soleil ne serait pas au centre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que... Le soleil est relégué. Mais vous aurez des psaumes où il y a le soleil, avec le psaume 19 ou le 104. Hein. Oui ? Ou pas ? Comment ?
Je reviens au
fils
de l'homme.
Oui ? Oui ? D'accord. Il définirait l'homme Dieu, l'homme comme Dieu, l'homme en général comme Dieu. Oui. C'est-à-dire l'expression fils de, on connaît l'expression fils de Dieu hein, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que l'homme a aussi cette propriété d'être appelé fils de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup à qui on le dit, mais certains ont ce titre. David est nommé fils de Dieu dans la prophétie de Nathan, hein. Ça c'est clair. En revanche, fils de l'homme, bon, c'est probablement un des sujets du Nouveau Testament sur lequel on a le plus travaillé, sur lequel on a le moins trouvé de choses, tellement c'est compliqué comme problème. L'expression initiale vient de Daniel. J'ai vu comme un fils d'homme, mais en fait, c'est probablement une erreur de traduction de l'araméen de Daniel, parce que Daniel est écrit en araméen. Probablement une erreur de transcription, mais après ça, je dirais que dans un certain nombre de traditions grecques, et même de tradition araméenne, on va traîner cette expression de « fils de l'homme ». Alors, l'expression « fils de l'homme », elle signifie, dans la plus, disons, dans le plus basique sens, hein, c'est-à-dire vraiment au plus simple, au lieu de dire que vous êtes, vous êtes une femme, alors je vais être coincé, mais c'est comme si je vous disais, vous êtes fils de l'humanité. Ça veut dire, vous appartenez à l'humanité. Fils de signifie, en quelque sorte, l'appartenance à l'humanité. Alors, vous pouvez, ici, vous avez le choix entre traduire fils d'Adam, tu es fils d'Adam, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'il y a en hébreu, mais fils d'Adam, Adam, comme je vous l'ai dit la dernière fois, peut être soit un nom propre, le père de l'humanité, hein, la dimension mâle de l'humanité, donc fils d'Adam, ça peut être fils d'Adam au sens descendant d'Adam, ou bien tout simplement, Adam ici représente le collectif humanité et désigne en quelque sorte l'homme, mais ici il faudrait presque traduire fils d'humanité, c'est-à-dire appartenant à l'humanité. Du fait que ce soit suivi d'un autre mot, qu'est-ce que l'homme, pour que tu t'en souviennes? Alors, ici, l'homme, au verset 5, parce que j'ai traduit par homme, en fait, Enosh, c'est un autre nom pour désigner l'homme, mais dans sa fragilité. Ici, c'est très synonyme, le fils d'homme, c'est tout simplement l'humanité. Ça pourrait désigner l'ensemble de l'humanité, beaucoup plus que d'y voir une filiation par rapport à Adam. Mais il est clair que dans la Septante, ça va devenir, d'une certaine façon, le fils de l'homme, Jésus, qui lui est capable. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu le visites dans la Septante. Là, il est clair que l'Épître aux Hébreux n'a pas de mal à interpréter ça, de Jésus qui est fils d'Adam dans la généalogie de Saint-Luc. Hein, vous savez qu'il y a deux généalogies. Matthieu, on descend d'Abraham jusqu'à Jésus, tandis que dans Luc, on part de Jésus pour remonter à Adam. Hein, fils d'Adam, fils de Dieu. Et là, vous avez exactement votre expression, hein, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous avez les deux. Au début de la à la finale de la généalogie de Luc. Donc, dans le Nouveau Testament, si vous le prenez dans le Nouveau Testament, effectivement, il n'y a aucun problème pour parler de... ça peut renvoyer à Jésus, et l'Épître aux Hébreux l'a parfaitement considéré comme tel, quoi. Mais avant de christologiser le texte, il faut d'abord le regarder dans sa matérialité, c'est-à-dire tel qu'il se présente dans l'hébreu. C'est tout homme. Mais évidemment, ça vaut a fortiori du Christ. Hein, le Christ est par excellence ce fils d'homme et ce fils d'Adam. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant quand on tire sur un fil de la Bible. Si vous rapprochez ça de Colossiens, hein, de l'Épître aux Colossiens, après, qui dit du Christ, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, etc. Et Dieu, etc., fait rayonner en lui sa gloire. Bon, ça, on voit bien qu'il y a le psaume 8 qui est derrière tout ça, ou Genèse 1, ou la sagesse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un texte du Nouveau Testament n'a jamais qu'un seul référent. Hein, il a toujours une constellation de références qui fait que quand on dépouille un texte du Nouveau Testament, on s'en retrouve avec trois ou quatre textes de l'Ancien Testament qui sont comme son arrière-fond et que les auteurs du Nouveau Testament ont parfaitement entremêlé pour faire du sens. Mais évidemment, c'est un texte... C'est normal qu'on lise ce texte-là le jour de Noël ou pendant la Passion. Hein. C'est clair. Alors, s'il y a encore une autre question, vous aurez remarqué que toutes les actions, c'est Dieu qui en est le sujet quand même. Hein. Tu as fixé, tu l'as établi, tu te souviens, tu l'as fait ayant, tu l'as couronné, tu l'as dominé, tu as tout mis sous ses pieds. Ça ne vous a pas échappé, ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne tous les pouvoirs à l'homme. Hein. Ce n'est pas l'homme qui est, par définition, cela. Tu as tout mis sous ses pieds, etc. Importance de couronner de gloire et d'honneur. Donc, importance donc de la, du Dieu souverain qui a fait l'homme ainsi. Voilà. Irénée ira tout à fait dans ce sens-là quand il dira que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et que, évidemment, cette phrase-là colle absolument pour le Christ sans difficulté. Ça y est, on peut considérer qu'il est... Bon, vous le direz plus pareil, j'espère. On le réécoutera tout à l'heure quand le système sonore sera installé. Et on va commencer un petit peu là le psaume 23. Pour un petit peu dégrossir le texte avant de... Alors, le psaume 23, je vous ai donné quand même presque tout ce qu'il fallait comprendre pour le décortiquer. Il est relativement facile, hein, il est pas, il pose pas de problème énorme. Ce qui pose un problème, c'est évidemment si on le lit dans une certaine matérialité, hein. Alors, vous avez dans ce psaume-là, en fait, ce qui va en faire la structuration assez facile à déterminer, c'est l'inclusion entre le début et la fin. C'est-à-dire que entre le début, vous avez Yahvé berger, il faudra enlever le « et » en français pour avoir l'hébreu, donc Yahvé berger, mon berger. Ça vous fait une phrase extrêmement ramassée, Adonai Roi. Adonai Roi. Donc c'est un psaume qui commence par Yahvé. À ce moment-là, il faut aller chercher vers la fin du psaume s'il n'y a pas Yahvé qui se promènerait ou berger. Bon, je m'aperçois que berger n'y est pas, mais je vais retrouver au contraire un autre mot qui va me parler de la maison de Yahvé. Hein, maison de Yahvé, et qui s'oppose à Yahvé berger. Donc ici, c'est assez facile à repérer. Il y a une inclusion entre le début et la fin, puisque le psaume commence par Yahvé, et se termine presque par la maison de Yahvé, bon, alors à longueur de jour qui est là. Alors, la difficulté de ce texte, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette juxtaposition de deux métaphores, hein, de deux choses qui sont côte à côte, et qui crée une difficulté. Beaucoup d'auteurs ont essayé de montrer qu'il y avait deux... Bon, la solution la plus classique, il y avait deux psaumes au début, l'un sur Yahvé berger, et un autre sur Yahvé qui accueille dans sa maison, et puis il y a quelqu'un qui a fait un collage. Bon, moi, j'aime pas bien ces solutions-là, parce que finalement, un auteur est incapable de faire ce qu'un bon poète sait faire, à savoir qu'il vous a juxtaposé deux façons de présence de Yahvé, l'une sur le mode du berger et l'autre sur le mode de l'hôte qui accueille dans sa maison.
Et il faut accepter qu'il y ait cette chose-là. Alors, l'inclusion, donc, permet de déterminer une certaine présence dans le texte que ce qui est dit à la fin est également dit au début, mais dans un autre langage. C'est-à-dire, au fond, dans la première partie, on a ce qu'on pourrait appeler le registre du berger ou de la nomadisation, et dans la deuxième partie, au contraire, le registre de la sédentarité avec le temple. Alors, le thème du berger dans l'Ancien Testament, on va éventuellement y revenir si vous avez des questions dessus. Les vers pâturages, tout ça, à quoi ça peut renvoyer. Moi, je me suis amusé à relever, si vous voulez, toutes les allusions possibles. Il y a une vingtaine de thèmes dans le psaume, hein, qui sont à peu près présents dans l'Exode ou dans le Deutéronome. Hein, une vingtaine de thèmes qui sont présents là-dedans. Par exemple, le thème du Dieu berger, c'est un thème assez classique dans l'Ancien Testament, et à propos de Dieu. Le thème de ne manquer de rien, alors en hébreu, c'est non pas je ne manque de rien, c'est j'ai pas de manque. Hein, je n'ai pas de manque, il n'y a pas de complément. Ensuite, le thème des pâturages ou des vers pâturages. Bon, ça aussi, c'est un thème qui va de pair avec l'idée du berger et des troupeaux. Le thème du repos, alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il me guide vers les eaux du repos, vers le repos. Les eaux tranquilles, ah, pourquoi les eaux sont-elles tranquilles? Il faut se poser la question. Pour y refaire mon âme, il me guide, et pour y refaire mon âme, bon, c'est une expression relativement classique, qui signifie tout simplement pour me redonner vie. Hein. J'étais à moitié mort et il m'a redonné vie. Le thème de la conduite de Dieu au désert est quelque chose de très net. Alors, les sentiers de justice, faut vous méfier. En hébreu, on connaît des adjectifs, ils ont des adjectifs en hébreu, mais ils n'aiment pas bien les utiliser, ils préfèrent utiliser des compléments de nom. Par exemple, au lieu de dire un sentier droit, un sentier juste ou le bon chemin, ils vont parler d'un chemin de bonté. Vous voyez, c'est un hébraïsme. Alors, il ne faut pas voir immédiatement la justice, la tzedaka, derrière le mot « les chemins de justice », mais ça indique tout simplement le bon chemin. Hein, il me guide par le bon chemin. Donc, il faut faire attention ici à ce genre de choses. Également, pour l'amour de son nom, en français c'est pour l'amour de son nom, mais en hébreu c'est simplement en raison de, ou à cause de lui. Hein, c'est pas, y a pas le mot amour en hébreu. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est le val ténébreux, parce que en hébreu, généralement, tsalmavet, la vallée de la mort, ce qu'on traduit souvent dans vos psaumes, dans ce psaume-là, la vallée de la mort, c'est quelque chose qui ne... En général, en hébreu, les racines sont faites sur trois lettres et rarement sur deux mots. Et ici, la vallée de l'ombre de la mort est probablement un mauvais découpage. C'est la vallée de l'ombre, tout simplement. Alors, je ne crains aucun mal, car toi avec moi, etc. Bon, le bâton, la houlette, vous savez ce que c'est qu'une houlette ? Le bâton, ça sert à... Bon, le
le berger, il a des chiens hein, pour travailler avec lui. Bon, les chiens font le boulot de serre-file, et le bâton, ça remet dans le droit chemin. La houlette, au contraire, c'est quelque chose qui permet de s'accrocher au rocher. Si je dois grimper, si vous voulez, j'ai un croc. Hein, c'est comme un croc. Et ça peut servir aussi à enlever quelque chose qui empêcherait la brebis de passer, un caillou, une chose comme ça, ou une touffe d'herbe que je veux donner à mes moutons. Ben, la houlette, c'est un petit peu ce croc qui permet de le prendre. Vous voyez, mais c'est plutôt ce qui permet, si ça grimpe, de pouvoir m'accrocher. L'un pousse, enfin, ou tape le bâton, et la houlette, au contraire, elle accroche. Hein, c'est la différence. En gros, la crosse des évêques est une houlette. Hein. D'ailleurs, ça pouvait servir à accrocher. Vous avez vu comment c'est fait en haut. Donc, crosser quelqu'un, ça servait un peu à l'attraper. Hein. Alors, le thème de la table mise, de l'onction, tout ça, ça ne pose pas de problème. Alors là, vous allez retrouver les ennemis face à mes adversaires. Ça a posé des problèmes à beaucoup d'exégètes. Comment que ça se fait qu'ils dressent ma table face à des adversaires? Qu'est-ce que viennent faire les adversaires ici? Bien. Et puis, alors, c'est où j'habiterai, où je reviendrai à la maison du Seigneur. Ah, il y a un petit problème là de traduction. Parce que en hébreu, vous avez deux verbes qui sont très proches au point de vue des racines. Vous avez le verbe « shuv » qui signifie « revenir » et vous avez le verbe « yashav » qui signifie « habiter ». Bon, et certaines des formes, ça arrive en français aussi, vous avez des verbes qui peuvent avoir des formes très très proches, voire communes, alors que ça renvoie à deux verbes différents. Hein. C'est un phénomène qui existe dans toutes les langues. Hein. En anglais, en particulier, il y a des faux amis avec le verbe « to lie » et le verbe « to lay », ben, vous allez avoir des formes communes, on ne sait pas si ça renvoie à « to lie » ou à « to lay », bon, etc. Donc, c'est des choses qui arrivent dans toutes les langues, qu'il y ait des formes qui sont très très proches. Donc la Septante a compris revenir, alors que l'hébreu a le verbe probablement habiter. Alors c'est où je reviendrai vers la maison du Seigneur, et ça peut être aussi habiter la maison du Seigneur ou y revenir. On va voir comment on peut trancher ce problème-là. Voilà, alors on fait une petite pause maintenant, le temps que on installe quelques éléments, et puis je vais aller chercher